Il y a un passage dans la parole de Dieu qui me surprend. Si vous prenez avec moi dans Actes chapitre 9, petit verset qui qualifie la vie de Paul avant qu'il connaisse le Seigneur, on devrait dire la vie de Saul. Actes 9, verset 1, il est dit « Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » Le mot qui est utilisé là me surprend. Il respire la menace et le meurtre. Un homme qui est tellement poussé par l'ennemi contre ce que le Seigneur veut faire, et il en est décrit comme respirant la menace et le meurtre. Je ne sais pas ce qu'on respire ce matin. Je ne sais pas ce que vous respirez. Nous voulons respirer la joie et la paix du Seigneur dans nos cœurs et aussi son action, n'est-ce pas? Et quand on lit ce qui se rapporte à la vie de Paul, on lit un peu plus loin au verset 16 du même chapitre, le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je lui montrerai à propos de Paul combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Des phrases que peut-être l'on n'a pas l'habitude de relever, en tout cas, c'est quelque chose que le Seigneur va dire, c'est une bannière en fait qu'il va dresser sur la vie de Paul. Si nous ouvrons maintenant la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, verset 11, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, on comprend ce que ça signifie. Il est dit, donc 2 Corinthiens 11, verset 23, « Sont-ils serviteurs de Christ à propos de certaines personnes qui disent que l'apôtre Paul ne l'est pas ?» Faux prophètes, des faux apôtres. Il dit, sont-ils des serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge et 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans le coma ou dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger de fleuve, au danger de brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. Et pour l'étude ou le message de ce matin, je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin, dans le chapitre 12, au verset 7. À cause de l'excellence des révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce est suffisante, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un passage étonnant de la parole de Dieu. On pourrait le qualifier d'un des passages les plus engageants et le plus encourageant aussi. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un passage qui parle de ressources. Les ressources que nous pouvons avoir et trouver en Jésus-Christ. On parle aujourd'hui du baril du pétrole à 100 dollars. Pardon. Et on est en train de se dire, on va en manquer, comment on va faire pour se débrouiller ? Des ressources qui commencent à manquer. Et là, on a une ressource qui est mentionnée, nous allons voir plus tard le détail. Et mais c'est aussi un passage des plus engageants, parce que quand on lit ça précisément, je me glorifie donc bien plus volonté de mes faiblesses. Ma grâce te suffit, ma grâce est suffisante. Eh bien, c'est quelque chose qui nous apprend à dépendre du Seigneur dans la vie du chrétien, n'est-ce pas? Alors nous verrons dans ce message ce matin trois points. Un premier point, Paul face à son Dieu. C'est-à-dire Paul qui pose une question à Dieu et Dieu va lui répondre. Paul face à son Dieu. Puis nous verrons ensemble donc la pleine suffisance de la grâce de Dieu, la provision suffisante de la grâce de Dieu. Et nous verrons dans un troisième moment l'explication, le choix de la faiblesse de l'apôtre Paul. Je choisis d'être faible pour qu'il soit fort. Tout d'abord, Paul, un homme face à son Dieu. On a vu un petit peu quelques détails qui concernent cet apôtre Paul, Saul et cet apôtre Paul. Quand on lit la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, qui est une épître très personnelle, il y a tout un débat, est-ce que vraiment c'est une épître qui a un intérêt, parce que l'apôtre Paul ouvre son cœur, l'apôtre Paul se livre, l'apôtre Paul va expliquer ce qu'il y a au-dedans de lui, se justifier. Alors on a un peu tendance à dire, c'est pas très 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 théologique tout ça, mais bien au contraire, c'est une épître où nous voyons toutes ces péripéties de la vie de l'apôtre Paul. Il faut qu'il apprenne à souffrir, pour moi. Ces dangers de ministère, ces dangers. Et nous voyons aussi cette petite phrase que j'ai choisie dans le verset 7, des révélations particulières. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a reçu du Seigneur des explications qu'il nous donne dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, on voit ces deux extrêmes, ces souffrances, ces révélations particulières. Et là, on découvre une écharde, et une écharde qui plus est, qui vient du diable. On se dit, mais attends, qu'est-ce que le diable, qu'est-ce que Satan vient faire là-dedans, dans cette affaire? C'est bien de l'apôtre Paul et de son Seigneur dont il est question, et le Seigneur qui permet une écharde. Maladie physique, certains diront que c'est une maladie des yeux, d'autres diront que c'est l'épilepsie, d'autres. Enfin, il y a eu tout un tas de débats sur cette maladie physique. En tout cas, ce que nous savons, c'est que elle provient du diable, premièrement, et qu'elle a une action sur l'apôtre Paul, une action certaine, telle qu'elle va l'humilier et le maintenir physiquement dans un état d'humilité. Des conditions de vie pas faciles, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, face à son Dieu, comme chacun d'entre nous, nous sommes face à notre Dieu, et nous avons ce privilège de pouvoir nous poser devant Dieu et l'interpeller, il va l'interpeller trois fois. Seigneur, fais quelque chose, tu vois comment c'est impossible. Je vis des moments de douleur dans ma vie quotidienne, avec tout ce que je trouve sur la route. Je vis des moments de douleur quand je m'occupe de ses frères et des sœurs et que je dois pouvoir vivre avec eux. Et des fois, ce n'est pas facile. Et en plus de ça, Seigneur, le diable aussi vient me mettre cet aiguillon dans la chair. Mais délivre-moi, Seigneur, j'aimerais tellement être délivré de ces conditions de vie pas faciles. Par trois fois, il va prier. Et là, nous voyons véritablement un homme qui a une relation avec Dieu. Parce que cette prière, par trois fois, ça présente le fait que l'apôtre Paul n'est pas quelqu'un qui va être un moulin à paroles, vous savez, avec Dieu. On prie, on prie, on prie, on prie. Un peu comme ces moines bouddhistes font. Il faut que les prières continuent de tourner toute la journée, sinon Dieu n'entend plus. Lui, non. Il a une intention, Seigneur, je vais t'interpeller là-dessus. Il y a une vraie interpellation, cette possibilité que nous avons. Et puis aussi, nous voyons dans cette prière quelque chose d'insistant. Seigneur, je te le demande une fois. Je te le demande deux fois et je tiens compte de ce que je te demande. Je tiens les comptes parce que c'est important, Seigneur, et tu relèves cette importance. Et j'ai cette liberté de te demander trois fois, n'est-ce pas? Et nous voyons aussi l'apôtre Paul dans cet état de soumission face à cette réponse de Dieu. Des fois, on prie et on n'a pas de réponse et on continue de prier, c'est une bonne chose. Et des fois, on prie et on a une réponse. Et elle ne se présente pas comme le Seigneur nous le demande. Elle ne se présente pas comme nous le pensions. Et là, Le Seigneur nous apprend la soumission, nous apprend aussi de dépendre de cette réponse qu'il nous donne, n'est-ce pas? Alors, l'apôtre Paul va, dans ce passage-là, révéler son attitude par rapport à la réponse du Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je vois que là, il n'y a pas de rébellion. Il y a une acceptation. Mais pas amère. Pas de dire, voilà, Seigneur, alors là, puisque c'est comme ça, je ne vais plus le faire. Tu te rends compte, là, ce que tu me demandes, ou non, là, c'est légitime, j'ai le droit d'avoir ça. N'est-ce pas toi le grand médecin, etc. Pourquoi Dieu ne lui ôte pas cette écharde? Dieu lui explique pourquoi. Des fois, on n'a pas d'explication à ce qui se passe dans nos vies, au moins pas dans l'immédiat. Là, le Seigneur lui a fait comprendre pourquoi. Parce que dans sa connaissance souveraine, Dieu ne souhaite pas le faire. Plusieurs raisons. Première raison, parce que l'apôtre Paul est un homme qui risque de s'enfler d'orgueil. Il est utilisé par Dieu, c'est un homme entier, c'est un homme vraiment qui va avoir un ministère très très fort. Et là, le Seigneur dit, mais il y a un risque pour toi, l'apôtre Paul. Oui, il y a un risque de devenir enflé d'orgueil. Parce que ton ministère, multitude d'églises, tes dons, ta connaissance, tout ce que tu fais, eh bien là, ça risque pour toi de te détourner de ce que moi j'attends de toi. Dieu sait ce qui se passe, Dieu sait ce qui se passera dans le cœur de Paul, et comment est-ce possible? Dieu va dire non, par précaution. Par précaution, parce qu'il veut que son serviteur lui reste fidèle. Attention, ne faisons pas dire à ce texte ce qu'il ne dit pas. Il n'est pas question de dire que si nous avons une maladie, c'est parce que Dieu veut nous maintenir dans un état identique à celui de l'apôtre Paul. On ne peut pas dire cela. C'est vrai que c'est possible, mais il ne faut pas faire ce raccourci-là, parce que c'est Paul face à son Dieu. Dans sa personnalité, dans ce qu'il vit, le Seigneur dira, mais non, il n'est pas question pour moi de l'ôter parce que justement j'ai peur. Enfin, permettez-moi de le parler et de dire comme ça. Je suis en train de penser à l'intérêt de l'Église, et si l'apôtre Paul n'a pas cette écharde-là, eh bien, il risque là de s'égarer, il risque un grave danger. Est-ce qu'on arrive à comprendre cette réponse négative de Dieu? Est-ce qu'on arrive à la comprendre? N'est-ce pas? Comment appliquer cette vérité biblique à nos vies? Dieu nous voit comme nous sommes, chacun d'entre nous. Dieu voit nos vies, nos cœurs. Et une chose est sûre, c'est que Dieu, nous connaissant le fond de nos cœurs, voit les dangers auxquels nous sommes susceptibles de tomber, ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur, et dans son amour, dans son désir, dans son cœur de père. Pour ne pas me perdre, eh bien, dans sa connaissance souveraine de ma vie, il l'autorise, il laisse là un aiguillon, il laisse quelque chose. C'est un fait que nous devons comprendre. Dieu a une souveraineté, a un droit sur nos vies à chacun d'entre nous. Et parce qu'il connaît l'apôtre Paul, il va faire cela. Parce qu'il connaît chacun d'entre nous, jeune, moins jeune, il va faire des choses qui collent à notre vie, n'est-ce pas? Cette souveraineté de Dieu qui, quelquefois, nous énerve, ou peut-être nous avons du mal à la comprendre, surtout quand les fameuses réponses de Dieu sont négatives, n'est-ce pas? On comprend la souveraineté de Dieu quand ses réponses vont dans le sens qui nous convient, ou vont avec nos idées, mais quand... cette souveraineté nous prive de quelque chose. Là, on s'est dit, tiens, est-ce que je vais l'accepter, cette souveraineté de Dieu, ou est-ce que je vais la refuser? L'apôtre Paul va montrer toute la profondeur de son engagement avec Dieu dans ce passage-là. Remarquons bien. Il dit, c'est pourquoi je me plais, je l'accepte. Je vais marcher dans ce que ce Seigneur veut faire. Et c'est pas juste de dire tant pis, c'est pas grave. C'est de dire, je le vis au quotidien. Bien souvent, quand c'est des choses qui font mal, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Qu'est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je manque de foi? Est-ce que ce n'est pas juste, Seigneur, ceci, Seigneur, cela? Et on va dans un sens qui est plutôt de dire, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça. Le Seigneur peut répondre, ma grâce te suffit. Je veux t'apprendre que ma grâce te suffit. Ma grâce, c'est quoi? Pas facile de comprendre. Pas facile de comprendre cette phrase. Ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. On peut traduire des deux manières, n'est-ce pas? Peut-être que vous pensez dans votre tête que là, le Seigneur est en train de dire, et je me permets de paraphraser, je ne veux pas vous choquer, mais certains penseront peut-être que ça signifie, tiens, voilà un os, et mordis-le, et tu dois te contenter de ça. Ce n'est pas dans ce sens-là que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, écoute, j'ai, moi, dans la grâce que je veux te donner, tout ce qui est suffisant pour vivre la vie chrétienne. Et même dans ce cas particulier de douleur physique et toute cette... bien, j'ai des provisions suffisantes pour t'aider à avancer. Ma grâce, c'est quoi? C'est ma faveur, c'est mon amour, c'est ma bienveillance. Vous savez, ce mot bienveillance qu'on ne peut pas traduire en français, c'est un mot hébreu, qu'on ne peut pas traduire en français tellement il a de sens. Amitié, sécurité, bonté, regard, bienveillant, il est difficile de le traduire et ça montre bien combien ce n'est pas facile pour nous de traduire cette grâce. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que Dieu a un regard pour chacun d'entre nous. Et cette grâce de Dieu est une provision. Une provision, ce n'est pas le minimum, c'est un maximum que le Seigneur veut nous donner déjà pour nous armer, pour vivre la vie chrétienne. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Et c'est largement suffisant. Seulement, il faut pour nous apprendre de puiser dans cette grâce-là. Et c'est l'apôtre Paul qui, là, dans sa vie à lui, dans sa relation avec Dieu, a appris à puiser. Et je nous pose la question à moi et à vous, est-ce que nous avons appris à puiser dans cette ressource qu'est la grâce de Dieu? Qui va être une ressource quand les choses vont bien et quand les choses aussi vont mal. Et est-ce que je suis quelqu'un qui a appris cela? Si ce n'est pas le cas, Dieu va avoir l'intention de m'apprendre. Ma grâce est suffisante pour toi. Ne t'inquiète pas. Tu as ce qui est suffisant pour ta vie, pour y faire face. Il y a tout pleinement, vous avez tout pleinement en Christ, comme il est dit. Autre part, pour moi, c'est une joie, vous savez, parce que quand même, dans la vie, il y a beaucoup d'inconnus, et des fois, on est dans des entretiens de travail, ou des fois, on est dans des situations à faire face à des gens qui ont des positions d'autorité, etc. Et là, on se dit, humblement, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je vais me présenter, etc. Je pense que vous êtes comme moi, n'est-ce pas? J'imagine. Oui. Et on se dit, mais comment je vais y arriver, Seigneur? Et cette suffisance de dire, mais attends, il y a derrière ce qu'il faut. Un petit peu comme ce passage qui dira, quand vous ouvrirez la bouche, c'est moi qui parlerai à votre place. Il y a derrière un bagage suffisant, celui du Seigneur. Combien d'années d'expérience le Seigneur a avec l'homme? Alors, je ne veux pas vous choquer, mais il m'arrive de poser des questions et d'attendre une réponse. Excusez-moi si je choque un exercice traditionnel. Combien d'années d'expérience le Seigneur a avec l'homme? Plusieurs milliers d'années, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, cette expérience-là, je la transporte avec moi. Le Seigneur est là. Le Seigneur sait. Le Seigneur peut, dans des situations délicate, révéler complètement cette grandeur-là. Et c'est une richesse inépuisable, n'est-ce pas? Quand on pense qu'on n'y arrivera pas, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas. Eh bien, quand on a le Seigneur dans notre cœur, quand on marche avec le Seigneur, on se dit, mais voilà, je vais y aller en tremblant des jambes, ça c'est un fait. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui ne tremble pas derrière, et c'est le Seigneur, et c'est merveilleux. Le Seigneur, comme une ressource suffisante, inépuisable, la grâce de Dieu, une provision pour affronter la vie, Si tu connaissais le don de Dieu, le Seigneur dira à la Samaritaine, mais si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me dirais, donne-moi à boire. Et j'aimerais que nous ayons cette même attitude, Seigneur. Nous voulons te dire, donne-nous, Seigneur. Hein? Quelle valeur a ce que Dieu me donne? Est-ce que j'ai eu l'habitude d'apprendre, de me servir de ce que Dieu donne? Ou est-ce que je me débrouille tout seul dans la vie? C'est merveilleux de voir des gens qui disent « Mais là, j'ai compté sur le Seigneur et le Seigneur a donné. Et là, je veux essayer de compter sur le Seigneur et voir ce que le Seigneur va faire, n'est-ce pas ?» Et dans la vie d'un pasteur, dans le cœur d'un pasteur, c'est bien de voir les frères et sœurs et les plus jeunes dire « Voilà, là, j'ai fait confiance et j'ai eu ça. J'ai eu mon permis, j'ai eu ça, j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé mon épouse et j'ai mis le Seigneur à l'épreuve. » Et ça s'est déroulé comme ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça a comme valeur ? Ce que Dieu me donne véritablement dans ma vie. Une bonne valeur intellectuelle, certes, mais qu'est-ce que ça a comme valeur dans le quotidien? Ma grâce te suffit. Dans mon couple, dans ma vie de famille, dans mon engagement social, qu'est-ce que ça a comme valeur, n'est-ce pas? Et le troisième point, alors je ne sais pas quel temps vous vous donnez. Le troisième point, c'est le choix de la force. Vous avez remarqué avec moi ce choix clairement identifié, qui quelque part est un peu surréaliste. Hein. Les gens du monde diront, mais attends, n'importe quoi. Hein. Toi, tu choisis d'être faible pour gagner. Alors là, c'est un petit peu comme si on disait à un athlète, ne t'entraîne pas et tu gagneras certainement les Jeux Olympiques, n'est-ce pas ? Dis, mais il y a un choix précis qui est mentionné là-dedans, car je choisis cette position-là, pourquoi? En fait, l'apôtre Paul a découvert que pour ne pas limiter l'action de Dieu dans sa vie, il doit limiter sa propre puissance. Il doit limiter sa propre force pour laisser le Seigneur, pour voir le Seigneur agir puissamment. Le problème est que l'importance de l'homme et l'importance de Dieu ne font pas bon ménage. Et qu'il nous faut apprendre à donner de l'importance à Dieu. Et pour donner de l'importance à Dieu, il y a ce chemin-là qui nous est donné. C'est le chemin de la maturité du chrétien. C'est le chemin de dire, voilà, je choisis véritablement à ce que Dieu soit fort. Même si moi, ça signifie que je suis faible. Et je préfère même, là, ces positions où je suis faible, pour laisser le Seigneur agir. Ce n'est pas une permission à la négligence qui est donnée là, attention. Hein. Ce n'est pas me dire, écoutez, de toute façon, je n'en ai rien à faire, je ne me prépare pas, ou je fais ça comme ça. Non, c'est une responsabilité de dire, Seigneur, je veux te laisser agir pleinement en moi. Est-ce que vous avez peur de vos faiblesses? Des points faibles qui sont les vôtres. Est-ce que vous avez peur de vos incapacités? Oui, moi-même j'en ai quelquefois peur. Le Seigneur nous invite à aller lui remettre. Et le Seigneur nous invite à puiser cette force-là qui va dépasser nos propres forces à nous. Je me plais dans la faiblesse. L'apôtre Paul dira, je me plais dans la faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il aime se faire mal. C'est ça? Non. Parce qu'il a goûté à la puissance de Dieu. Et donc, ayant goûté à la puissance de Dieu, il dit, mais moi, je veux choisir l'action, la puissance de Dieu. Et c'est parce que je veux choisir cette action, cette puissance de Dieu, que je me plais de le voir se révéler et de le voir agir dans ma vie. Cette assurance merveilleuse que le Seigneur, quand il a sa place, agit. Quand je suis faible, c'est alors qu'il est fort, oui. Mais je suis fort aussi avec lui parce qu'il me tient. Alors je crois qu'à la lumière de ce texte-là, qui est un exemple de vie, qui est un modèle, qui n'est pas juste un traité de théologie, hein, c'est quelque chose qui est du vécu de l'apôtre Paul, on peut tirer trois leçons, trois enseignements. La première, c'est moi face à mon Dieu, est-ce que je l'interpelle? Est-ce que je lui pose des questions? Est-ce que je lui demande? Et s'il me répond? Qu'est-ce que je fais de ça? Comment je réagis à ces réponses? Deuxièmement, Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'accepte ces ressources qui sont en Christ? Est-ce que je veux tenter, pour ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de choisir les ressources qui sont en Christ, de dire, voilà, Seigneur, aide-moi à, dans ce domaine-là, te faire confiance, à dire, oui, je veux que ta grâce compte pour apprendre et petit à petit vivre de cette grâce suffisante. Et troisièmement, est-ce que je choisis la puissance de Dieu ou est-ce que je choisis ma propre force? Voilà, ces trois questions que le texte nous appelle, sur lesquelles le texte nous appelle à réfléchir. Et évidemment, que nous ne pouvons pas avancer dans ce domaine-là sans avoir une vraie relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? Parce que si on n'est pas proche de Dieu, on ne comprend pas qu'il nous dise non. Si on n'est pas proche de Dieu, on ne comprend pas qu'il nous dise « Attention, tu risques là de tomber ». Si on n'est pas proche de Dieu, on ne comprend pas sa force et sa puissance, alors on dit « Non, non, c'est moi qui vais faire les choses et je vais y arriver par moi-même ». Alors il nous faut encore une fois reconnaître que nous avons besoin d'être proches de Dieu au quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans notre exercice de prière, dans notre lecture, etc. Être proche de Dieu pour pouvoir avoir cette intimité qui nous aide à être à l'aise dans ces domaines-là. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Parce que, Seigneur, tu as ce qui est suffisant pour nos vies. Seigneur, nous voudrions apprendre à avoir cette même pensée que l'apôtre Paul, à constater que c'est suffisant et à apprécier cette suffisance. Seigneur, nous voudrions avoir aussi cette même attitude qui consiste à dire, Seigneur, nous voulons choisir ta puissance, ton action. Seigneur, agis dans nos vies à chacun d'entre nous. Et Seigneur, je voudrais te prier peut-être pour ceux qui un jour ont dit non parce que tu as répondu négativement. On dit, je veux m'éloigner, Seigneur, je ne veux pas de ta réponse. Seigneur, j'aimerais te demander de les aider, Seigneur, à comprendre ta réponse et à accepter cela comme une réponse d'un Père plein d'amour. Seigneur, notre prière, notre vœu, c'est que tu agisses puissamment dans chacune de nos vies et dans ton Église, ici ou à Moissy-Cramayel, Seigneur, car c'est là que nous voyons ta personne. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.